Alors, j'avais proposé comme titre le halal dans les textes parce qu'en fait, je ne savais pas exactement. Comme j'ai beaucoup travaillé sur ces questions, en fait, je travaille sur le droit musulman depuis 20 ans, et même un peu plus. Et travailler sur le droit musulman, en fait, c'est travailler constamment sur le. Puis surtout que je travaille sur le droit positif, c'est-à-dire les règles, les normes. Et donc, ça revient à travailler sur le halal en permanence. Alors, je ne voulais pas parler des interdits alimentaires, parce que j'ai déjà eu ma dose. Alors, je vais essayer de vous donner quelques réflexions, d'ailleurs, des réflexions qui ne sont pas encore achevées, si vous voulez. Je partirai du point de départ, à savoir que ces dernières années, mais on constate ça déjà depuis très longtemps, j'avais déjà écrit à ce sujet, c'était dans le cadre de ma thèse, ça remonte donc à belle lurette, qu'il y avait un souci, on constatait un souci très fort parmi les musulmans contemporains, aussi bien dans les pays originaires que dans ce qu'on appelle aujourd'hui la diaspora musulmane, comme les musulmans installés en France, etc. Il y a un souci de conformer non seulement leurs conduites alimentaires, mais également la totalité de leur conduite à ce que l'on appelle la loi islamique. Alors, c'est un mouvement qu'on ne peut pas réduire à ses déterminants sociologiques. Il y a beaucoup de tentatives d'explication dans les années, je me rappelle, quand a émergé l'affaire de Creil, pour ceux qui s'en souviennent, l'affaire de Creil, la première fois qu'il a été question du foulard, à l'époque on disait foulard islamique, en France. On a essayé d'expliquer ça par la marginalité des populations, par leurs difficultés économiques, par toutes sortes de déterminants économiques et sociologiques. Mais malgré tout, on sent un processus qui va en se renforçant et qui est profond. Alors, il faut quand même essayer de s'interroger sur la raison de ce souci. Pourquoi ce souci? Alors, bien sûr, on pense tout de suite immédiatement à la notion d'identité. Et là, de ce point de vue-là, effectivement, la notion d'identité n'est pas quelque chose qui est inexact. On a bien affaire, comme on en parlait tout à l'heure, à propos de l'interdit du porc, malgré les tentatives de le rendre avec une argumentation de type médical ou biologique, de le rendre, ou même économique, de le rendre acceptable, il est difficile de faire avaler, si je puis dire, la chose aux musulmans. On peut arriver avec quelques-uns, mais ils sont déjà tellement détachés par rapport au système normatif qu'ils peuvent, eux, franchir le pas. Mais ceux qui sont à l'intérieur du système normatif, il est difficile de leur faire accepter le changement. Mais j'essaierai de donner tout à l'heure un exemple. Christian Bromberger a donné l'exemple de l'esturgeon qui a été rendu acceptable par les mouftis. Mais on a beaucoup d'exemples dans l'histoire par les ferqués, oui, les mouchtaïdes. Alors, il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire du droit islamique où on voit des objets qui étaient considérés comme interdits et qui deviennent licites. Un des exemples que moi, personnellement, je cite souvent, parce qu'il est vraiment... il est à la fois amusant sur le plan anecdotique et en même temps significatif, c'est celui du café. Le café a été interdit pendant très longtemps. Alors... est-ce que ce mouvement, cette tentative de conformer son comportement au code de conduite islamique constitue ce que parfois les juristes appellent, enfin les historiens du droit appellent du formalisme, hein, pour les, si je peux me permettre, pour des protestants, l'esprit pour lesquels la religion c'est avant tout l'esprit, Les musulmans, c'est des formalistes, c'est des gens qui s'attachent à des détails qui n'ont aucune signification. Hein, ils sont prisonniers de la lettre, hein, comme les juifs. Alors, néanmoins, pour nous, Marie Douglas a dit des choses à ce sujet-là qui sont importantes, que beaucoup d'entre vous connaissent. Hein, la question qui se pose, c'est en quoi ce souci de la conformité au code islamique est vital. Alors, deuxième problème, c'est la notion de halal. Alors, on a tendance à utiliser la notion de halal et à réduire, à simplifier les choses. Je rappelle, je ne veux pas être docte, mais je tiens quand même à rappeler que la notion de halal s'insère dans un système de ce que habituellement on appelle qualification juridique, ahkam, shara'iyya, hein, qui est un système de cinq notions. Vous avez l'obligatoire, l'interdit, et vous avez, alors ce sont les deux pôles négatifs, si vous voulez. Vous avez deux pôles intermédiaires, c'est le souhaitable ou le recommandable, et l'autre pôle, c'est le blâmable, ce qu'on désapprouve, hein, ce qui est répréhensible. Alors, vous avez les deux pôles extrêmes, le prescrit, l'obligatoire, ou bien l'interdit. Exemple du premier, c'est par exemple le jeûne du Ramadan. Le jeûne est obligatoire. Aucune alimentation, aucune nourriture n'est obligatoire. Par contre, le jeûne est obligatoire. Hein, jeûner est obligatoire. Ce qui revient à dire que transgresser cette obligation, c'est commettre une faute, un péché. De l'autre côté, vous avez ce qui est interdit, le porc par exemple. Le porc est interdit. Transgresser l'interdit, c'est commettre également un péché. Alors, et puis vous avez les deux, nous sommes dans un système, pourquoi je dis tout cela? Nous sommes dans un système de calcul. Yawm al-Hisab, le jour du jugement, le jour dernier, hein, vous avez la balance, Dieu le juge, va regarder ce que vous avez commis, ce que chacun a commis comme péché, ce que chacun a commis comme bonne action. Je crois que dans l'esprit des chrétiens, par exemple, ce n'est pas quelque chose de très exotique, ça. Hein? Alors, donc, et puis vous avez les deux éléments intermédiaires. Alors, le souhaitable et le répréhensible. Le souhaitable, c'est par exemple, je ne sais pas moi, faire des prières la nuit, en dehors des heures canoniques. Alors ça, c'est souhaitable. Alors, quand on fait des prières la nuit, on est récompensé. Mais si on s'en abstient, on n'est pas puni. Il n'y a aucun... Dieu ne peut pas faire le reproche. De l'autre côté, le répréhensible, c'est plus intéressant, le répréhensible. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut considérer une chose répréhensible. Par exemple, les malékites disent que manger de la viande de cheval, c'est répréhensible. Makro. Mais il n'est pas interdit de manger. Ce n'est pas interdit. Dire que c'est makruh, ça veut dire que ce n'est pas interdit. Ce qui fait qu'en fait, il y a deux degrés. Il y a deux degrés dans le halal. Il y a le degré, si vous voulez, le degré élémentaire, commun, courant, hein, c'est ce qui est permis, moubah, hein, est permis tout ce qui n'est pas interdit. Voilà. Et vous avez un deuxième degré, c'est ce qui est makruh. Il y a une partie du halal qui est quand même l'objet d'une... disons, d'une évaluation négative, mais qui n'est pas interdit. Donc, vous voyez, donc il y a une nuance quand même à apporter sur cette question de halal. Alors, il y a un autre aspect auquel on a fait référence tout à l'heure dans la séance précédente, c'est que, comme l'a rappelé notre collègue tunisien, depuis très longtemps, j'ai beaucoup étudié ces textes, la nourriture des gens du livre, des Al-Kitab, des chrétiens, juifs, etc., est permise depuis très longtemps, sauf le cas particulier des chiites du Dossimin qui l'interdisent. C'est un cas particulier. Alors, chez les sunnites, la nourriture des chrétiens et des juifs est permise, elle est licite, depuis très longtemps. Et le fameux Ibn al-Arabi est connu, il dit, il y a quelqu'un qui lui pose la question, est-ce que je peux manger, si je suis invité par un chrétien, mon voisin chrétien, est-ce que je peux manger le poulet qu'il m'offre, alors qu'on sait qu'eux, quand ils tuent leur poulet, ils leur tordent le cou seulement, ils ne les saignent pas comme nous. Ibn Arabi répond, dit, Dieu a dit, la nourriture des gens du livre est licite, donc tu peux en manger. Voilà. Cette position est connue. Cependant, alors, aujourd'hui, enfin, au 20e, fin du 20e, début du 20e, 21e siècle, les mouftis, quand on leur pose la question, ils répondent comme ça. La plupart répondent dans la réponse d'Ibn Arabi, y compris quelqu'un qui est réputé pour être un extrémiste, comme Al-Qaradawi, hein, le mufti Al-Qaradawi, le Cheikh Al-Qaradawi. Il cite Ibn Arabi, le Cheikh Al-Qaradawi, et il reprend sa position. Néanmoins, on constate que les fidèles ne se contentent pas de cette réponse. Ils sont plus radicaux que les mouftis. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il y a la crainte, la crainte qui est théorisée à travers une notion. Hein. En arabe, on parle de wara. Le scrupule religieux, c'est la traduction qu'on donne habituellement. Et alors, il y a la crainte de ne pas pouvoir justifier cette conduite le jour où on sera en face du juge suprême. Hein, vous voyez, donc il y a cette dimension et donc qui tracasse les fidèles. Par exemple, je suis tombé une fois sur une fatwa assez surprenante. Un fidèle qui vit ici en France pose la question à Mufti. Il lui dit, c'est un moufti algérien, il lui dit, je vis dans un quartier où il y a un seul boucher, c'est un chrétien, il vend du cochon et de la viande licite, et il coupe la viande, le cochon et la viande licite avec le même couteau. Qu'est-ce que je dois faire? Il est bien embarrassé, là. Le moufti, vous ne pourrez jamais deviner la réponse du moufti, elle est tout à fait surprenante, pourtant c'est un conservateur. Il lui dit, quand tu arrives chez toi, tu prends la viande, tu la mets sous le robinet, tu la laves, et tu la fais cuire. Voilà, je ne sais pas ce qu'a décidé de faire celui qui a posé la question. Donc, vous voyez, donc il y a cette difficulté. Alors, ce qu'on remarque, c'est que ces catégories, et l'ensemble, en fait, du système, portent sur les actes des sujets, des individus. Hein. Et donc, ils se réfèrent à un code de conduite qui est imputé à Dieu. Mais je vais vous en dire un mot. En fait, c'est une fiction juridique. Alors, ce qu'on remarque également, c'est que ce code de conduite a trait principalement à la relation à Dieu. Donc, c'est le culte, hein, ce que les savants musulmans appellent les ibadat, les obligations culturelles. Et d'un autre côté, il y a les relations à autrui, c'est-à-dire les relations contractuelles entre humains. Hein, par exemple, le droit matrimonial, le droit successoral, y compris le droit pénal. Hein, ils appellent ça mu'amalat. Hein, vous voyez, donc ce sont les. Il y a aussi les relations à soi, en fait, qui interviennent, mais elles interviennent par l'intermédiaire des relations à Dieu. Par exemple, dans la pureté, etc., c'est les relations à soi. Alors, ce qu'on remarque, c'est que par contiguïté, et c'est ça la particularité, ce qui fait qualifier parfois la loi islamique de loi totale, ou voire totalitaire, ce code de conduite tend à recouvrir tout le champ de l'existence humaine. Et c'est pour cela qu'on arrive à une sorte de conséquence logique assez étrange. C'est que celui qui édicte, qui définit le code de conduite, devient en quelque sorte le véritable chef. Or, ce sont les hommes de religion qui définissent le code de conduite. Donc, ils deviennent les véritables chefs de la communauté des croyants. Alors, il y a une autre particularité, c'est que la norme est verticale. La définition de la norme est verticale. Elle n'est pas horizontale. C'est-à-dire que la norme n'est pas définie par un échange, une délibération. Hein, on délibère. Et ensuite, on s'entend par des moyens quelconques sur ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Hein. Par exemple, les débats, c'est censé être le noyau dur de l'esprit du parlementarisme. Là, nous avons une norme qui est définie de façon verticale et donc qui s'impose. On ne peut pas la changer au nom de ses désirs individuels. On ne peut pas la changer au nom de ses désirs individuels. Par contre, elle peut changer. Mais le changement de la norme, et là on peut comprendre dans quel sens ça peut évoluer, du moins. Hein. On ne peut la changer qu'à l'intérieur du système, en utilisant les moyens du système, comme a essayé de le faire, je fais encore référence à notre collègue tunisien qui a montré, ou bien Christian Bamberger qui a montré que Khomeini a essayé d'utiliser les instruments du droit imamite pour changer la norme. Alors, une particularité de... Là, je vais dire quelque chose qui peut paraître un peu... qui pourrait paraître blasphématoire, mais qui ne l'est pas. C'est à propos de l'ijtihad. Les oulémas, quand ils abordent, et c'est pour cela qu'ils peuvent changer la norme, les oulémas, quand ils abordent un problème, un cas nouveau, ils doivent se mettre dans, ils doivent rechercher l'intention des règles qui existent déjà. Ils doivent rechercher l'intention du législateur. Or, le législateur, c'est Dieu. Donc, ils doivent cerner l'intention de Dieu à travers chaque règle. Donc, ça, c'est blasphématoire un petit peu, parce que peut-on saisir l'intention de Dieu ? En théologie islamique, l'intention de Dieu, c'est quelque chose d'inaccessible. Ça fait partie de ce que les théologiens appellent le raïb, c'est-à-dire ce qui échappe totalement à l'homme. Et ce serait, si on pouvait identifier l'intention de Dieu, ça veut dire qu'on pourrait avoir une maîtrise sur Dieu. Vous voyez, il y a une dimension. Mais néanmoins, c'est comme ça que fonctionne à partir du 12e, 13e siècle le droit islamique, notamment du côté sunnite. C'est qu'on doit identifier, on doit rechercher l'intention de Dieu. Alors, si on arrive à identifier l'intention de Dieu, on peut utiliser l'intention de Dieu comme argument pour faire face aux nouveautés, ou bien pour abolir une interdiction, ou bien promouvoir une interdiction. Donc, si on arrive à... Merci. Je vais terminer. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que quand le mufti ou le juriste pratique l'ijtihad, en fait, il fait une hypothèse, il formule une hypothèse sur ce qu'est la volonté de Dieu. Il s'identifie, il essaye de retrouver cette volonté et, d'une certaine façon, il parle comme si Dieu parlait. Mais il n'est pas sûr. Voilà la différence entre le mujtahid musulman, chiite et sunnite, et le pape. Le pape est le vicaire du Christ. Quand il parle, c'est le Christ qui parle.
Seulement depuis 1870.
Mais depuis 1870. Mais il est vicaire du Christ depuis très longtemps, hein, pas seulement depuis 1870. Alors, le mujtahid, lui, il essaye de retrouver la parole de Dieu, la parole inaccessible de Dieu, mais le problème, c'est qu'il n'est pas certain que ce soit la vérité. Donc c'est de cela que vient la difficulté d'avoir une autorité qui puisse affirmer ex cathedra que voilà la vérité. Alors, si vous voulez, bon, je conclue un peu de façon un peu rapide et en faisant référence à des discussions qui ont lieu en France. Effectivement, tout ce système tel que je viens de vraiment très, de façon très superficielle de le décrire, peuvent conduire effectivement à une sorte de ce qu'on appelle un mot honni en France, le communautarisme, puisque ça tend à définir. Satan avait défini des barrières culturelles, des frontières culturelles, et à isoler, même s'il n'y a pas de ghetto, même s'il n'y a pas de ghettoisation de la population, même s'il n'y a pas de concentration de la population, vous avez quand même une sorte de, sur le plan symbolique, une sorte de frontière qui se met en place. Et donc, on ne peut pas nier ce fait-là. Hein. Donc, et ça pose évidemment des problèmes nouveaux à la fois pour l'État français, pour les États occidentaux en général, et pour les musulmans. Voilà, donc je conclue sur ces mots-là.
Merci beaucoup.